Je suis Didier Magie-Reviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fiscalité applicable aux SCI familiales. En matière patrimoniale, les sociétés civiles, et en particulier les SCI familiales, sont souvent utilisées comme une méthode d'organisation du patrimoine d'une famille. D'un point de vue fiscal, les SCI bénéficient de dispositions spécifiques au moment de leur création, au moment de l'imposition de leurs bénéfices, ainsi qu'au moment de la cession des parts sociales par les associés. Commençons par la fiscalité applicable lors de la constitution d'une SCI. D'un point de vue juridique, il est possible de constituer une SCI par un acte passé devant notaire ou via un acte sous seing privé. Dans les deux cas, l'acte de constitution doit être enregistré. Dans le cas des SCI, les apports sont généralement constitués de biens immobiliers. L'acte qui constate la constitution de la société fait l'objet d'un enregistrement auprès du service de la publicité foncière dans un délai de 2 mois. Le service compétent est celui dans le ressort duquel est situé le bien immobilier apporté à la société. En présence d'un apport d'un immeuble à titre pur et simple, la contrepartie étant uniquement la remise de titres sociaux, l'enregistrement est réalisé gratuitement si l'apporteur est une personne physique et que la SCI est fiscalement translucide. Dans le cas où la SCI serait soumise à l'impôt sur les sociétés, l'apport entraînerait en principe l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux. L'enregistrement peut toutefois être réalisé gratuitement si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres remis en contrepartie de l'apport pendant une durée minimale de 3 ans et que l'immeuble est compris dans l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle. Que la SCI soit fiscalement translucide ou qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés, si l'immeuble fait l'objet d'un apport à titre onéreux, notamment en cas de prise en charge d'un passif dont l'immeuble serait grevé, l'opération est assimilée à une vente et donc soumise au droit de mutation à titre onéreux. Lorsqu'un contribuable apporte un immeuble à une société, l'opération est assimilée fiscalement à une vente. Cette opération peut donc dégager une plus-value imposable au niveau de l'apporteur. Dans ce cas, le montant de la plus-value correspond à la différence entre la valeur des parts sociales remises en contrepartie de l'apport et le prix auquel le bien immobilier est entré dans le patrimoine de l'apporteur. Cette plus-value est imposée comme une plus-value immobilière des particuliers lorsque le bien immobilier n'est pas inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle. Elle est ainsi imposée au taux global de 36,2%, dont 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Elle peut être exonérée si le bien est détenu depuis plus de 22 ans en matière d'impôt sur le revenu et de 30 ans en matière de prélèvements sociaux. Si le bien apporté était inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise et affecté à son exploitation, c'est le régime des plus-values professionnelles qui s'appliquerait, avec une possibilité d'exonération au bout de 15 années de détention. Passons à l'imposition des bénéfices d'une SCI familiale. En principe, une SCI est fiscalement translucide. Ça signifie qu'elle relève de la fiscalité des ménages. Lorsque la SCI loue un bien immobilier non meublé, les loyers perçus relèvent du régime des revenus fonciers. Dans ce cas, le résultat imposable de la SCI correspond au montant des loyers bruts perçus, augmenté le cas échéant des dépenses mises à la charge des locataires par convention et qui leur incombent normalement. Lorsque la SCI dégage un revenu net foncier, chaque associé est personnellement imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Les associés sont imposables à proportion des bénéfices qui correspondent à leurs droits au sein de la société. Conformément à l'article 8 du Code général des impôts, les associés font l'objet d'une imposition à l'impôt sur le revenu, que les bénéfices de la société soient distribués ou non. Ainsi, l'absence de distribution effective des bénéfices est sans incidence sur l'imposition des associés de la société. En cas de déficit foncier, chaque associé peut imputer la quote-part du déficit qui lui revient sur ses autres revenus fonciers ou, le cas échéant, les revenus fonciers des 10 années suivantes. À noter qu'une SCI a la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Cette opération est irrévocable à défaut de renonciation dans un délai de 5 ans. Dans ce cas, les associés ne sont soumis à l'impôt sur le revenu qu'à raison des dividendes mis en distribution après le paiement de l'impôt sur les sociétés. Contrairement aux SCI qui sont fiscalement translucides, il n'y a pas d'imposition au niveau des associés en l'absence de distribution. Lorsque la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, elle bénéficie d'autres avantages. Elle peut ainsi amortir le bien immobilier inscrit à l'actif du bilan, ou encore déduire les frais d'acquisition et les intérêts d'emprunt du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. A noter que si la SCI se livre de manière habituelle à des opérations de nature commerciale, telles qu'une location meublée d'un immeuble à usage d'habitation qui n'est pas exercé à titre accessoire au sens de l'article 206.2 du Code général des impôts, elle devient alors soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Lorsque la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, son résultat imposable se calcule alors à partir des loyers échus. Ce n'est donc pas la date d'encaissement qui est prise en considération. En cas de distribution des bénéfices par une SCI à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques sont alors imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à savoir le prélèvement forfaitaire unique de 30% ou sur option le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Lorsque la SCI est fiscalement translucide, c'est-à-dire non soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value de cession de l'immeuble est alors imposable au niveau des associés, suivant le régime des plus-values immobilières des particuliers, à savoir un taux global de 36,2%, avec la possibilité de bénéficier des abattements pour durée de détention de 22 ans en matière d'impôt sur le revenu et de 30 ans en matière de prélèvements sociaux. Les associés font l'objet d'une imposition à proportion du nombre de parts sociales détenues au sein de la société. En revanche, lorsque la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value est imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, selon le régime des plus-values professionnelles et sans abattement pour durée de détention. A noter que lorsqu'une SCI renonce à l'impôt sur les sociétés, cette renonciation est traitée comme une cessation d'entreprise. Cela entraîne ainsi l'imposition immédiate des bénéfices en cours non encore imposés, ainsi que des plus-values latentes de l'actif social. Il est possible d'échapper à cette imposition immédiate s'il n'y a aucune modification des écritures comptables et que l'imposition des bénéfices et des plus-values demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal applicable à la SCI. Passons à l'imposition de la plus-value de cession des parts sociales d'une SCI familiale. Si la SCI relève de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les SCI fiscalement translucides, la cession par un particulier de parts sociales à titre onéreux est soumise au régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers. Si les parts sociales ont été acquises il y a 30 années, la plus-value est exonérée en totalité d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et ce, même si l'immeuble a été acquis par la SCI il y a moins de 30 ans. Si la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, la cession à titre onéreux est imposable suivant le régime des plus-values de cession de valeur mobilière, à savoir le prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%, ou sur option le barème progressif de l'impôt sur le revenu auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Il sera fait observer que dans les deux cas, la plus-value correspond à la différence en fait entre le prix de cession des parts sociales et leur prix d'acquisition. Il y a une subtilité en cas de cession de parts sociales d'une SCI à l'impôt sur le revenu. En effet, le prix d'acquisition doit être majoré du montant de l'ensemble des bénéfices non distribués et ou des pertes ayant donné lieu à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition doit par ailleurs être minoré du montant de l'ensemble des bénéfices distribués par le passé et ou des déficits déduits par l'associé. A noter que si les parts de la SCI étaient inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle, la plus-value réalisée par l'entrepreneur suivrait alors le régime des plus-values professionnelles. Il sera par ailleurs fait observer que la cession de parts sociales entraîne des droits d'enregistrement du côté du cessionnaire. En principe, les cessions de parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à titre onéreux sont soumises au droit d'enregistrement au taux de 5%. Vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité applicable aux SCI familiales? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale.